Après, moi, j'ai été très dur pour moi de prendre la parole en public parce que j'avais, j'estimais que j'étais nul en langue, donc je m'étais créé cette croyance limitante, ce qu'on appelle l'impuissance imprise. Pour moi, c'était pas possible de parler en public. Je bégayais, je devenais rouge. Et j'ai fait un TEDx devant 350 personnes alors que j'étais nul en langue et j'arrivais pas à parler. Et ça a été grâce à la lecture, parce que le fait d'avoir m'entraîné à lire, à apprendre, à faire tout ça, ça a ouvert en moi des choses. Et aujourd'hui, quand on me dit « Est-ce que tu veux faire ça ?» Si je l'ai pas fait, je dis « Vas-y, j'y vais. » Juste pour essayer et pour me dépasser. Parce que c'est pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc forcément, si tu fais toujours la même chose, eh ben forcément, tu auras toujours le même résultat. Et donc, il faut à un moment, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, et eh ben à un moment, il va falloir, tu n'aimes pas parler aux gens, ben, à un moment, il va falloir parler. Parce qu'il faut faire un truc que tu n'as jamais fait si tu veux avoir ton premier client. Et il faut toujours essayer. Tu veux lancer ton podcast, mais tu as peur de parler, et eh ben vas-y, fais-le. Parce que c'est comme ça que tu vas t'entraîner. Il faut accepter d'être dans l'erreur. Il faut accepter de progresser. Et la première version sera toujours. La dixième version sera mieux que la première, et la centième sera mieux que la dixième.
Bienvenue dans Sors de ta grotte, le podcast qui te booste pour passer à l'action. Passer à l'action de quoi? Tu veux lancer ton entreprise, un projet créatif, un projet whatever? À la fin de la journée, c'est les mêmes mécanismes et c'est de ça qu'on va parler dans ce podcast. Et avec moi aujourd'hui, il y a la super Dream Team avec Élise.
Oui.
Et notre invité, on accueille un champion de mind mapping et de lecture rapide, s'il vous plaît. Élise, je te laisse le présenter.
Merci Aurélie et bienvenue Mohamed.
Bonjour à tout le monde, merci de m'accueillir ici. Je suis super content d'être là.
Alors, juste pour la petite anecdote, avec Mohamed, on était à l'école ensemble. Donc, juste avant ce podcast, il m'a dit qu'on était même à l'école primaire ensemble et après, on a fait le collège. Donc, c'est génial, quoi. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Et en plus, ce qui est hallucinant, c'est que je l'ai retrouvé par hasard sur Instagram parce qu'une autre connaissance avait tagué son nom sur en story. Donc non, c'est super. Mohamed, est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est le mind mapping pour ceux qui ne savent pas, la lecture rapide, et surtout nous parler un petit peu de ce que tu fais aujourd'hui?
Ok. Alors moi, je m'appelle Mohamed, j'ai 32 ans, je suis papa de deux enfants, deux petits garçons, un de 3 ans et demi et un de 10 mois. Et aujourd'hui, je suis formateur en technique d'apprentissage. Donc, j'apprends aux gens à apprendre, tout simplement, parce qu'on ne nous a jamais appris à apprendre, on passe notre vie à apprendre. Aujourd'hui, en plus, en tant qu'entrepreneur, je passe ma journée à apprendre, je dois apprendre des nouvelles choses. Ce qui est incroyable, c'est que quand on est entrepreneur ou qu'on veut devenir entrepreneur, on passe notre vie à apprendre des nouvelles choses. Parce que on est effectivement, on vend une prestation, mais on doit apprendre tout ce qui est autour, la comptabilité, le marketing, tout ce qui, toutes les choses qu'on nous a jamais expliquées. Et donc effectivement, on passe notre vie à apprendre, mais on nous a jamais dit voilà comment tu dois faire pour apprendre. Quel est ton mécanisme d'apprentissage? Et aujourd'hui, moi, j'aide les gens à apprendre, C'est ça la mission que je me suis donnée. Et comment j'en suis arrivé là? Donc, comme tu l'as dit, Élise, on était à l'école ensemble en primaire. Au collège, on était à Saint-Ouen dans le 93, j'ai grandi là-bas. J'ai eu une scolarité plutôt moyenne, j'avais pas mal de difficultés, surtout en primaire. Et moi, j'ai une grosse difficulté en primaire. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais on voulait me mettre en classe de perfectionnement quand j'étais en CE2. J'avais redoublé la CP et tout ça. Et moi, le seul mécanisme, le seul mode que j'avais, c'était le travail. Je vais travailler pour compenser mes difficultés et surtout travailler. Et je mettais toute mon énergie sur la partie scientifique. Parce que comme j'étais nul en langue, pour moi, ce qui était bon, c'était les sciences. Donc, après un bac S, j'ai fait plein de petits boulots, j'ai galéré. Et là, à ce moment-là, je me suis dit non, il faut que je continue mes études. J'ai repris mes études, j'ai fait un diplôme d'ingénieur. Et je suis rentré dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. Donc, j'ai travaillé pendant 8 ans dans le domaine de l'énergie. Et il y a 3 ans et demi, je fais la version longue. Il y a 3 ans et demi, j'arrive à Montpellier. Et là, ouais, je connaissais personne. Gros, le truc, quand tu pars de Saint-Ouen où j'ai vécu toute ma vie, j'arrive dans une nouvelle ville. Et ma femme me dit, Mohamed, je suis quelqu'un sur les réseaux sociaux qui fait de la lecture rapide. Et elle me dit, ce serait cool que tu y ailles. Je lui dis, non, mais est-ce que tu me racontes la lecture rapide? Déjà, la notion de lecture rapide, pour moi, je connaissais pas. Et la deuxième chose, c'était, Moi et la lecture, mais attends, la dernière fois que j'ai lu un livre, c'était pour le bac de français, et tu sais bien que j'aime pas lire. Elle me dit, si, si, vas-y, ça va te faire du bien, tu vas rencontrer du monde. Et moi, j'avais trop l'image de la lecture geek. C'est le club de lecture avec que des geeks, et moi, je me voyais pas du tout aller dans un truc comme ça, en toute transparence. Et ben, quand je suis arrivé là, j'y suis allé, elle m'a inscrit, elle s'est inscrite en mon nom, et elle m'a dit, Tira, t'inquiète, t'es obligé d'y aller. Donc j'y suis allé, je sais pas, elle avait peut-être une prémonition, je sais pas, elle avait vu le truc, parce que ça a littéralement changé ma vie et la vie de notre couple. Et donc j'y suis allé, et je suis arrivé dans un endroit où il y avait des entrepreneurs, des jeunes, des moins jeunes, des personnes qui me disent qu'ils étaient capables de lire un livre de 200 pages en moins d'une heure, qui avaient repris leurs études, qui faisaient des choses incroyables, qu'ils étaient tous dans la dynamique, qu'ils étaient capables de changer de métier. Parce qu'aujourd'hui, comme tout se trouve dans les livres, si demain tu veux changer de métier, eh ben, tu vas à la bibliothèque, tu prends 10 livres sur la thématique, tu les lis en une journée, tu fais des mind mapping, tu utilises des méthodes de mémorisation, tu les mémorises, et là, tu es plus compétent qu'une personne qui est là depuis 5 ans dans le domaine. Et je dis, non, mais c'est fou. Pourquoi je n'ai pas pris ça avant? Mais où j'étais? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Et donc, je suis tombé amoureux de ça, de ce savoir. Donc, je me suis mis à me former, à me former, encore à me former, jusqu'à faire de la compétition. J'ai fini triple champion de France de mind mapping, champion de France de lecture rapide par équipe, où j'ai lu un livre de 320 pages en 37 minutes, avec l'équivalent d'un 16 sur 20 aux questions-réponses, 80%
Oui.
de rétention d'informations. Et jusqu'à maintenant, j'en fais mon métier à plein temps, j'ai arrêté mon salariat et aujourd'hui, je suis formateur à plein temps. Donc voilà, tout le cheminement de perfectionnement, presque en perfectionnement, jusqu'à aujourd'hui, formateur en technique d'apprentissage et tout ça.
Waouh! Alors là, je suis stupéfaite. Là, franchement, notez bien son nom, Mohamed Boclet, parce que tout à l'heure, on n'a pas précisé son nom de famille, mais c'est un parcours mais incroyable. Enfin, mais ouais, toi-même, tu n'y croyais pas, en fait, qu'un jour, tu allais être capable de te former autant, aussi facilement. Tu partais de loin avec ces difficultés en langue, quoi.
Effectivement, moi je me définissais comme un ancien nul. Ça veut dire quoi? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire je suis nul.
Oh!
Ah, mais je suis
Jamais.
trop nul! Et quand tu es devant une personne et que tu n'arrives pas à faire un truc, et là tu t'insultes intérieurement et tu as ta petite voix intérieure que tu passes. Alors, il y a un truc que j'aime bien dire, nous, de manière générale, on aime bien être bienveillant envers les autres. Oh non, mais t'inquiète, tu vas y arriver. Tu sais, on est tout gentil avec les autres, mais envers nous-mêmes, on est les derniers. Ouais, non, t'es nul, non, t'y arrives pas. Et moi, j'avais exactement ça. Et tout le temps, je me croyais que j'étais nul. Je me répétais, non, mais moi, t'es trop bête, non, mais tu n'y arriveras pas. Non, mais moi, tu ne pourras pas prendre la parole en public. Non, non, si. Et le jour où j'ai découvert ça, je me suis rendu compte, donc quand je dis ça, ces techniques d'apprentissage, je me suis rendu compte en vrai que c'était pas vrai que j'étais nul. C'est que seulement je ne savais pas comment je devais faire pour apprendre. Et je ne connaissais pas mes capacités. Et donc, ça a littéralement changé quelque chose intérieurement en me disant, mais non, non, en vrai, c'est faux. T'es pas nul, c'est juste que tu ne savais pas. Et donc là, je me suis mis à apprendre. Élise, elle s'en rappelle pas parce que j'étais à l'époque, on ne prenait pas trop la parole en public. Mais quand j'étais en école d'ingé, après, moi, j'étais très dur pour moi de prendre la parole en public. Parce que j'estimais que j'étais nul en langue, donc je m'étais créé cette croyance limitante, ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Pour moi, c'était pas possible de parler en public. Je bégayais, je devenais rouge. J'ai fait un TEDx devant 350 personnes, alors que j'étais nul en langue et j'arrivais pas à parler. Et ça a été grâce à la lecture, parce que le fait d'avoir m'entraîné à lire, à apprendre, à faire tout ça a ouvert en moi des choses. Et aujourd'hui, quand on me dit, est-ce que tu veux faire ça? Si j'ai pas fait, je dis, vas-y, j'y vais. Juste pour essayer et pour me dépasser. Parce que c'est pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Je la répète, pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faut faire ce que tu n'as jamais fait. Donc forcément, si tu fais toujours la même chose, eh ben forcément, tu auras toujours le même résultat. Et donc, il faut, à un moment, tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, eh ben, à un moment, il va falloir, tu n'aimes pas parler aux gens, ben, à un moment, il va falloir parler. Parce qu'il faut faire un truc que tu n'as jamais fait si tu veux avoir ton premier client. Et il faut toujours essayer. Tu veux lancer ton podcast, mais tu as peur de parler. Eh ben, vas-y, fais-le, parce que c'est comme ça que tu vas t'entraîner. Il faut accepter d'être dans l'erreur, il faut accepter de progresser, et la première version sera toujours, la dixième version sera mieux que la première, et la centième sera mieux que la dixième. Et c'est ce mécanisme-là que je me suis mis en tête, et ça, c'est comme ça que maintenant que je fonctionne.
Super.
Et donc
Mais
là,
d'ailleurs, moi, j'aimerais bien faire des liens avec nos anciens podcasts, enfin, avec nos anciens épisodes, parce que justement, on parlait On a beaucoup parlé de cette sortie de zone de confort, de cette sortie d'aller vers des choses que l'on ne connaissait pas. Et justement, on parlait de cette peur d'aller vers quelque chose qu'on ne connaissait pas. Comment est-ce que toi, tu fais, alors, soit toi personnellement, ou soit quand tu accompagnes les gens qui ont cette crainte d'aller vers des choses qui ne connaissent pas, justement?
Alors moi, aujourd'hui, quand tu me parles d'accompagner les gens, moi j'accompagne les gens sur une thématique bien spécifique qui est d'apprendre à apprendre. Donc moi,
D'accord.
je suis vraiment dans, je suis pas, je me caractérise pas comme un coach en développement personnel ou un coach des personnes qui sortent de leur zone de confort. Voilà. Non, moi, je suis vraiment dans l'apprentissage. Donc une personne en vrai, les personnes qui sont entrepreneurs, qui veulent reprendre leurs études, qui sont étudiants, ou j'ai beaucoup moins de personnes qui ont plus de 25, c'est du 25-40, beaucoup de femmes, 25-40, qui sont dans une dynamique que j'en ai marre de ce que je fais, j'en ai marre de mon travail, et j'ai envie de reprendre mes études, ou j'ai envie de changer. Et donc, moi, je vais les accompagner à apprendre à apprendre. Et tout le mécanisme que je mets en place, c'est il y a les techniques, mais il y a le programme d'entraînement, la mise en pratique. Et donc, moi, je les accompagne dans la mise en pratique parce que le souci, c'est que souvent, on va se former, on va faire une journée de formation, mais quand tu rentres chez toi, tu as fini ta journée de formation et tu rentres chez toi, tu te regardes dans un miroir et tu fais, mais maintenant, qu'est-ce que je fais? Ou par où je commence? Par où je pars? Et donc, moi, un jour, j'ai fait une formation personnellement qui s'appelle Trouver son excellence. Et cette formation-là, la personne avec qui je l'ai faite, il a défini mon mécanisme. Et mon mécanisme, c'est l'art d'apprendre et de faire apprendre. Ouais, mon excellence, c'est l'art d'apprendre et de faire apprendre. Et en utilisant la méthode des petits pas. Et donc, moi, c'est ce que je fais sans m'en rendre compte. C'est ce que je mettais en place. Et lui, il a mis des mots sur ce que je faisais. C'est que dans mes techniques d'apprentissage, quand je partage quelque chose, j'essaie toujours de partir de quelque chose de simple et de crescendo, mettre des petits pas, des petits pas. Et donc, la personne, indirectement, elle se rend pas compte qu'elle est dans l'action. Et parce que tous les jours, elle en fait un peu. Jusqu'au jour, elle se retourne, elle dit, waouh, j'ai déjà gravi le sommet. Alors que si on voit une montagne, forcément, moi, je préfère voir des petites collines au lieu de voir des montagnes. Donc ça, c'est comme ça que je fonctionne avec mes élèves. Et avec moi, comment je fonctionne? Je fonctionne un peu de la même manière. Déjà, j'essaie de faire petit à petit. Donc, il y a plein de choses que je fais et j'accepte de les faire mal au début. Quand je dis j'accepte de les faire mal, je sais que c'est pas parfait, mais je me dis, je préfère le faire pas parfait et d'être dans l'action que ne pas le faire. Et après, faire évoluer au fur et à mesure les choses, quitte à faire des mécontents, même si aujourd'hui, les gens, au début, surtout, ils sont super bienveillants avec les gens. Tu sais, quand ils vont plus venir te dire, ouais, ça, regarde, t'as une faute. Exemple, moi, je sais que je fais beaucoup de fautes d'orthographe. J'ai dit que j'étais nul en langue. Et c'est vrai, aujourd'hui, dans des posts Instagram, des fois, on va voir des fautes d'orthographe. Je me relis des fois, moi, 4 fois, 5 fois, et je vois pas la faute. Et des fois, je me fais relire à ma femme, et elle me dit, mais t'avais pas vu ça, non? Et des fois, bah, j'en vois. Je sais qu'il y en a qui vont dire, mais regarde, il y a des fautes d'orthographe, il est champion de lecture rapide, tatati. Mais je me dis, ouais, mais moi, au moins, je suis champion. C'est une chose. Je fais abstraction de ça. Moi, au moins, je suis dans l'action. C'est-à-dire qu'au moins, peut-être qu'il y a 99% des personnes qui ont lu le texte et qui ont été impactées par le texte et qui n'ont pas vu la faute d'orthographe. Et ça, c'est plus important pour moi que le fait d'avoir la faute d'orthographe. Et c'est accepter de se dire, bah, j'y vais quand même, j'essaye. Et si tu t'arrêtes, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont dire, il y aura toujours des personnes pour parler. Et ça, moi, j'en reçois des gens qui m'écrivent en MP. Ah, tu me permets de te dire qu'il y avait des fautes d'orthographe? Ouais, vas-y, dis-moi, il n'y a pas de souci. Mais ça me fait plaisir. Dis-moi, je me ferai attention la prochaine fois. Mais j'accepte d'être imparfait et on sera tous imparfaits. Et il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction.
Ah, ça c'est bien dit. Ouais,
Voilà, donc ça c'est.
on va récupérer cette
Ouais,
petite phrase.
ça va devenir un petit post Instagram. Waouh, je trouve ça hyper encourageant bah, pour les personnes qui hésitent à passer l'action, soit de devenir entrepreneur ou de se lancer dans la création de contenu ou quoi. Parce qu'en fait, ce que tu nous montres, c'est que bah, la confiance, elle vient dans l'action. Et puis que. Ça, c'est vrai que j'avais un peu oublié cette notion-là, parce que je m'étais beaucoup renseignée il y a quelques années, puis j'ai tout zappé, quoi, mais que c'est vraiment intéressant de savoir apprendre à apprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont la croyance, ouais, j'ai déjà 40 ans, reprendre des études ou me lancer dans un nouveau truc, je ne sais pas si je pourrais. Et au final, les gens viennent te voir pour ça, voilà, pour créer un tremplin pour leur vie. Et donc, en fait, il n'y a rien d'insurmontable dans la vie.
Bien sûr, moi j'ai des mamans parce que j'ai des formations en ligne et j'ai un programme d'accompagnement sur 2 mois où j'accompagne des personnes pendant 2 mois à hauteur d'une fois par semaine. Et dans ce programme d'accompagnement, j'ai une maman de 54 ans qui a repris à 54 ans des études de médecine chinoise. À 47 30 ans, une dame que j'accompagne qui reprend ses études de naturopathie, une maman, 3 enfants. Et qui travaille de nuit à 39 ans, elle reprend ses études d'infirmière, elle est en troisième année d'infirmière, 3 enfants, travaille de nuit. J'ai des profils, je les regarde, je dis, mais c'est vous les. Parce que moi, mes élèves, je les appelle. Moi, c'est. Donc, ma société, c'est connaissances illimitées, et mes élèves, je les appelle les illimités. Et quand je les vois et qu'ils me racontent leur parcours et qu'ils veulent intégrer mon programme, je dis, mais c'est toi l'illimité, c'est fou, qu'est-ce que tu arrives à faire? Et là, ils sont dans cette dynamique de dire, oui, mais là, j'avance, j'ai. Une maman Adama qui me dit qui reprend ses études de sociologie, tu vois leur profil, tu te dis, mais moi je suis papa, j'ai 2 enfants, je vois, je galère avec les enfants et tout, j'essaie de. Je te dis, mais comment elle, et voilà, je suis dynamique, tu vois, et je dis, mais comment elles arrivent à se dire, je vais reprendre mes études à 40 ans, à 42 ans, à 35 ans, à 37 ans, et je me dis, et en plus, elles ne partent pas sur des études de 6 mois, elles partent sur des études de 3, 4, 5 ans, donc elles disent, attends. J'ai commencé à 40 ans, mais je finis à 45. Et elles sont là, elles sont motivées, elles veulent apprendre les techniques. Et je dis, waouh, c'est fou. Et ça me fait vraiment plaisir quand je vois des personnes comme ça. Et souvent, ces personnes, pourquoi elles viennent me voir? Parce qu'elles se disent, j'ai galéré à l'école, j'ai eu des difficultés à l'école, et je sais qu'aujourd'hui, bah, j'ai moins de temps qu'avant, et je ne peux plus me permettre de passer une journée à la bibliothèque, je ne peux plus me permettre à la maison d'avoir un coin où je passais ma journée comme à mon petit bureau quand tu étais étudiant, où tu étais sur ta table, où tu avais tout partout. Non, maintenant, il faut que j'ai les bonnes techniques parce que faut que je rentre du travail, que je m'occupe des enfants. Et après, une fois que tout le monde est couché, que je vais dîner, là, je vais commencer à réviser. Donc, il faut que j'ai les bonnes techniques. Et là, c'est pour ça qu'aussi qu'elle vient de me voir.
Waouh. Alors moi, j'ai juste quelque chose à dire à nos auditeurs qui hésitent encore parce qu'ils n'ont pas l'âge, parce que voilà, là, je n'ai plus une excuse. C'est plus possible de se cacher derrière l'âge. C'est pas possible.
Là, je sais pas. Aujourd'hui, on vit en moyenne 82 ans, à peu près. En moyenne, ça fait on a 30 000 jours sur Terre. Il y en a qui ont même le décompte de leurs jours sur Terre. Donc, on a à peu près en moyenne 30 000 jours. Et pour vous dire qu'à 35, 40, 45, 50, j'ai le doyen de mes élèves, le plus âgé, il a 80 ans. Il s'appelle Alain. Qui a fait ma formation en ligne de lecture rapide. Et quand je l'ai eu, parce que je l'avais eu au téléphone, et je lui ai dit, mais pourquoi tu. Il me dit, j'ai plein de livres et j'ai envie de rattraper le temps perdu. 80 ans, il se forme à la lecture rapide. Et aujourd'hui, est-ce que vaut mieux passer même s'il nous reste, on va dire, 5 ans sur Terre, même si t'as 30, parce qu'on ne sait pas quand on va partir. Et vas-y, moi aujourd'hui, j'ai 32 ans. Peut-être qu'il ne me reste plus que 6 mois sur Terre. Est-ce que je préfère apprendre les bonnes techniques et ou me lancer dans mon projet que j'aime et passer les 6 mois qui me restent, parce que je ne sais pas un jour tu vas partir et tu ne sais pas quand, les 6 mois qui te restent à faire ce que tu aimes, ou tu préfères rester ces 6 mois encore en train de te dire, ah bah j'aurais aimé. Je pense que vous savez tous ces études qui ont été faites sur les personnes qui sont sur leur lit de mort, à qui on demande qu'est-ce que tu as le plus. Si tu avais encore des jours, qu'est-ce que tu ferais? Et ils sont tous en disant, j'aurais aimé faire tel projet, j'aurais aimé faire tel projet, et je ne l'ai pas fait. Et c'est les personnes qui sont dans cette dynamique du regret, parce qu'ils n'ont pas pu réaliser ce qu'ils voulaient. Et moi, c'est cette phrase, ce positionnement, c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans l'entrepreneuriat. Je me suis dit, j'ai 32 ans, si je ne le fais pas maintenant, je n'ai pas envie à 40 ans, 42 ans, parce que moi, je travaillais dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie. J'étais cadre, j'étais bien, je commençais, en plus, le fait d'avoir appris toutes ces techniques, je commençais à avoir de plus en plus de responsabilités parce que j'étais très productif au travail. Et je me suis dit, non, mais Mohamed, si tu ne le fais pas maintenant, plus tard, quand tu auras 40, 45 ans, 50 ans, tu vas regarder en arrière et tu vas toujours avoir cette petite voix dans ta tête qui te dit, ah, mais si je l'avais fait, ah, si je l'avais fait, ah, si je l'avais fait. Et bien maintenant, je l'ai fait. Et si ça se passe bien, que là j'ai commencé, je le fais, ça se passe bien. Si ça se passe mal, au moins je l'aurais fait. Et j'aurais pas eu de regrets. Et je m'aurais dit, je l'ai essayé. Et maintenant, je reprends ma petite vie tranquille. Mais au moins, j'aurais vécu ce qu'il fallait que je vive.
Waouh, mais si seulement je t'avais rencontré en 2015, 2014, non? Ouais, 2014, j'ai repris des études en psychologie en cours à distance. J'avais un job à côté, j'avais une maladie chronique qui m'empêchait de me concentrer, de bien mémoriser, d'avoir beaucoup d'énergie. Alors, c'est vrai que j'avais déjà découvert le mind mapping. D'ailleurs, il faudrait que tu nous en parles un peu plus. Et ça m'aide énormément à structurer les idées et tout. Mais bon, au niveau de la mémoire, ce n'était pas suffisant. Et en fait, à chaque fois, je n'arrivais pas à aller au bout de l'année. Chaque année que je faisais des études, même en dehors de ces études de psycho, en fait, je faisais quasiment chaque année en 2 ans. Après, ce n'est pas insurmontable, je pense, mais c'est vrai que c'est vraiment bête en fait, qu'on ne connaisse pas toutes ces techniques pour se connaître, pour apprendre à apprendre, pour vraiment optimiser tout ça. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le mind mapping?
Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je vais te parler du mind mapping. Et effectivement, ce que tu as dit, c'est déjà apprendre à se connaître. Parce qu'aujourd'hui, on a différents types d'intelligence. À l'école, on est évalué sur 2 types d'intelligence qui sont l'intelligence logico-mathématique et verbo-linguistique. Soit tu es bon en langue, tu fais L. Soit tu es bon en sciences, tu fais S. Soit tu es bon dans les deux, mais tu n'aimes pas forcément l'un et l'autre, tu vas faire ES. Et quand tu n'es pas bon en langue et en maths, on te met en technologique. Tu en dis non, mais là, toi, va en techno. C'est un peu le système. On fait le tri comme ça à la fin de la fin du collège. On se fait ce tri-là. Toi, tu vas en techno parce que tu n'es pas bon partout. Tu es juste moyen partout. Toi, tu es bon en langue, tu fais L. Voilà. On a un peu ce tri. Alors qu'il y a plein de types d'intelligence différents, il y en a 9. Je vous inviterai à aller faire vos recherches sur les intelligences multiples de Howard Gardner. Et aujourd'hui, donc, il y a ces différents types d'intelligence. Et en fonction de ton type d'intelligence, tu as aussi tes forces qui vont te permettre d'apprendre et tes canaux de perception. Comment toi, tu fonctionnes? Est-ce que tu es plus auditif, kinesthésique, visuel? Est-ce que tu es plus cerveau droit? Est-ce que tu es plus cerveau gauche? Et ce qui se passe, c'est que le mind mapping, qui est un outil de prise de notes, on appelle en français la carte mentale, qui permet de prendre des notes sous forme d'arborescence, où tu as un élément central qui est le cœur de carte, qui est le sujet, et après tu as des branches dans lesquelles tu vas mettre des mots et des images. Ce qui se passe, c'est que ça fonctionne, le mind mapping fonctionne, il est en adéquation avec le fonctionnement naturel du cerveau. Le cerveau fonctionne en arborescence. Et lorsque tu vas faire un mind mapping et que tu vas apprendre avec le mind mapping, tu vas utiliser plusieurs types d'intelligence. Et tu vas utiliser plusieurs sens de perception, de canaux de perception. Donc, tu vas utiliser plus d'outils. Parce que moi, j'aime bien dire que notre cerveau, c'est un moteur de Ferrari. Et nous, on l'utilise comme une calèche. C'est-à-dire que nous, on a un moteur de Ferrari. Donc, on est en 2020. Mais on a l'impression d'utiliser comme une calèche, comme si on était en 1900. Et là, on est là, on avance tout doucement, tout ça. Et quand on met un petit sprint avec notre calais, après on est essoufflé, on n'est pas bien. Alors que la Ferrari, quand tu veux un 230 ou un 300, elle est bien, elle a envie de continuer. Là. Elle a envie de continuer. Et donc, c'est ça, c'est notre fonctionnement. Et c'est à nous d'utiliser notre cerveau comme il le doit. Et juste, on ne le fait pas. Et donc, ces outils-là, quand je les ai découverts, comme le mind mapping, comme la lecture rapide qui te permet de lire un livre de 200 pages en moins d'une heure, comme les techniques de mémorisation qui te permettent de mémoriser l'information une fois que tu l'as lu et que tu l'as mind mappé, et ben tout ce trio-là te permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Sachant que tout ça, quand tu fais ça, après, tu essaies d'être beaucoup plus efficient dans tout ce que tu fais. J'utilise bien le mot efficient et non pas le mot efficace, parce que pour moi, c'est vraiment 2 choses différentes.
Tu peux nous dire la différence?
Ouais. Alors, la différence entre l'efficacité et l'efficience, l'efficacité, c'est l'atteinte d'un objectif. L'efficience, c'est l'atteinte d'un objectif avec le moins d'énergie possible. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vas atteindre ton objectif, mais tu vas mettre le moins d'efforts possible pour l'atteindre. Donc, c'est comme si tu es entrepreneur, eh bien, tu veux faire 1 000 euros par mois. Tu t'es donné comme objectif de gagner 10 000 euros par mois. Ça, c'est ton objectif. Tu peux faire 10 000 euros par mois en travaillant 10 heures par jour, tous les jours du mois. Et soit tu t'arrêtes, tu regardes ce que tu fais dans les 10 heures par jour et là, tu optimises, tu regardes ce qui peut être mieux fait, tu trouves les bons outils et là, à la fin, là, tu travailles qu'une heure par jour, mais tu fais toujours tes 10 000 euros. Donc là, tu as été efficient parce que tu es parti, tu as atteint l'objectif avec le moins d'énergie. Et dans l'énergie, j'intègre quoi? J'intègre le corps, là, l'énergie physique, j'intègre l'argent, j'intègre le temps, j'intègre toutes ces notions-là qui nous permettent d'atteindre un objectif. Et donc, il faut toujours chercher l'efficience. C'est toujours chercher l'efficience. C'est comment je peux atteindre le meilleur résultat avec le moins d'énergie. D'où le fait que, tout à l'heure, on parlait d'être imparfait. Parce que quand tu acceptes d'être efficient, tu acceptes aussi d'être imparfait. Parce que des fois, c'est la perfection qui te fait prendre trop de temps. Alors, ça veut dire quoi? Je vais prendre, là, on est en train de faire un podcast. Tu as 2 cas de figure. Tu as le cas de figure où tu viens, tu dis, c'est tel studio, tu mets play, tu parles, tu fais ton podcast, tu finis, tu le mets sur la plateforme, tu as été efficient. tu as le cas du gars qui dit bah, je le fais, après qui réécoute tout, qui enlève tous les blancs, qui va enlever tous les blancs, qui va regarder, qui va faire plein de trucs, qui va prendre 2 heures à tout couper, qui va un podcast qui lui prend 1 semaine juste à monter, parce que ou quand il veut faire une vidéo YouTube, il fait je sais pas combien de trucs. Eh bien, ouais, bah là, pour le coup, effectivement, tu as un super beau podcast, tu as un super beau, une super belle vidéo. Moi, bah, regardez, moi, je fais des vidéos YouTube, je me suis lancé là. J'en fais maintenant de plus en plus. Je me suis donné l'objectif d'en faire 2 par semaine. C'est un résumé de livre. Donc, tous les dimanches, je fais un résumé de livre. Ça nécessite de lire le résumé et de le faire en vidéo. Et donc, ça, c'est tous les dimanches. Et les mercredis, c'est un apprentissage. C'est 5 outils, voilà, des choses comme ça, des outils. Et bien, mon parti pris, c'est effectivement, je prends du temps à trouver le bon résumé, à le préparer, tout ça. Mais je me prends mon PC, j'appuie sur play, je m'enregistre et j'appuie sur truc et j'arrête. Et je mets ça sur YouTube. C'est mon parti pris. Aujourd'hui, je n'ai pas les fonds, je n'ai pas le temps d'avoir un monteur qui arrive, qui coupe tous mes blancs, qui fait un truc dynamique, tout ça. Je sais que c'est le top et que peut-être dans un an, peut-être avant, c'est vers là que j'ai envie de tendre. Ça, c'est mon objectif. Mais aujourd'hui, je me dis, au lieu de dire ben, le jour où j'aurai le monteur, le truc, mais ça, il va me falloir des millions d'euros pour faire ça. Eh bien, non, je ne les ai pas. Donc, moi, aujourd'hui, je fais avec mes moyens, je fais ça. Ça me fait grossir ma chaîne, doucement. Voilà, tranquille. Moi, je donne de la valeur. Les gens qui kiffent, ben, ils écoutent la valeur que j'ai à apporter. Et demain, quand j'aurai une équipe, que je pourrai me permettre d'avoir une personne qui fait ça, parce que moi, ce n'est pas ma zone de génie et je n'aime pas faire ça, donc je ne le ferai pas, ben, cette personne me fera les montages. Et comme ça, on pourra voir que les vidéos de 2022 n'ont pas les mêmes qualités que les vidéos de 2021. Et c'est cool parce que j'ai progressé, ça veut dire que j'ai progressé.
Et ça, c'est le cas par loi naturelle, hein, comme tu disais tout à l'heure, d'une autre façon. Ça va forcément être nul quand on va regarder en arrière. Ça va forcément être moins bien. Et puis, bah, c'est le parti pris qu'on a pris avec ce podcast quand on s'est posé, en fait, avant. On s'est pas dit un jour, tiens, si on s'enregistrait Play, on a quand même bien réfléchi avant de se lancer. Et on a réfléchi à l'organisation optimale entre nous trois pour que ça prenne le moins d'énergie possible. Parce que bon, on va pas faire des millions avec ce podcast. Le premier objectif pour nous, c'est de partager notre savoir, en tout cas nos expériences. Et finalement, ça nous fait du bien de mettre ça dans des podcasts parce que c'est comme si on était en train d'écrire un livre, hein, de faire des recherches préliminaires pour écrire un livre. Ça nous permet en fait d'intégrer ce qu'on sait déjà. Et voilà, nous, on voit plus comme ça, comme un support qui va nous aider à créer du contenu pour diffuser des idées qui sont importantes pour nous. Et après, voilà, c'est sûr, le jour où l'objectif change, que c'est plus un objectif de partage, d'inspirer les gens, et ben, après, on met les moyens derrière. Et là, ça n'en vaut pas la peine pour le moment.
Après, effectivement, c'est une question d'objectif. C'est exactement ce que tu es en train de dire, Aurélie. Et il y a aussi il y a son objectif. Et il y a aussi le fait de se dire que même si mon objectif, c'est de faire des... Exemple, mon objectif, c'est de... mon objectif, c'est de faire des millions, de devenir un YouTuber et de gagner des millions sur YouTube. Mais je sais que mon objectif d'être YouTuber et de gagner des millions sur YouTube, ou du moins d'avoir des millions d'abonnés pour... faire des placements de produits, je sais pas, c'est pas mon objectif, mais imaginons, ça avait été ça, eh ben, faut accepter que pour arriver à ce niveau-là, eh ben, il faut passer par faire des vidéos au début, t'es là, t'es derrière. Je sais pas si vous connaissez tous David Laroche, je pense que vous le connaissez tous, eh ben, allez voir ses vidéos, allez voir ses premières vidéos, allez voir les vidéos d'aujourd'hui. Et lui-même, il a laissé ses premières vidéos, pas pour rien, c'est pas pour rien qu'il a laissé ses premières vidéos. C'est pour montrer sa progression. Et ses premières vidéos, c'était un petit jeune, tout maigre, derrière un écran, il lance, il met play, vraiment un truc. Et il a accepté de faire ça. Et aujourd'hui, il a fait je ne sais pas combien de TEDx, tout ça. Et c'est une personne qui impacte énormément de monde. Et il y a plein de personnes comme lui qui font la même chose.
Donc, tu as été champion de France de lecture rapide et de mind mapping. Et comment t'es venue l'idée de lancer tes produits en fait d'accompagnement et tes produits sur Internet de formation?
Alors, moi, ce qui s'est passé, c'est que rapidement, très, très, très rapidement, dès que j'ai commencé à me former, j'avais ce besoin de partage. Je sais pas, ça a toujours été en moi ce besoin de partage et de partager, de partager, de partager. Et surtout, quand j'ai découvert ça et que le bien que ça m'a fait, je me suis dit que je pouvais pas garder ça pour moi. Et j'avais sur Montpellier un projet d'école. C'est pas moi, j'ai participé dans une association avec une école qui était en construction. Et ils avaient besoin de lever des fonds. pour cette école. Et il m'avait proposé de faire une formation. Il m'avait dit, ouais, Mohamed, bon, on voit que tu es super dynamique, tu es à fond dans ce que tu fais, dans la lecture rapide, le mind mapping. Est-ce que ça, vas-y, fais une formation, prépare une formation, anime-la, on fait une petite participation aux gens, et les gens qui participent, l'argent, en vrai, c'est pour l'association. Et moi, je me suis dit, OK, donc moi, j'avais tout à gagner, parce que moi, je faisais ça bénévolement. L'argent, on avait faisait payer 49 euros la journée de formation, c'était donné. Moi, je me mettais. Ouais, pour moi, c'était tout bénef, c'est-à-dire que j'apprenais, je partageais, et en plus, je faisais une bonne action parce que l'argent qui a été levé était pour l'association. Donc, j'ai commencé au début à faire ça de manière associative. J'en ai fait deux, trois pour ce projet-là. Après, je me suis dit, ah ben, c'est cool, ça marche. Et je me suis rendu compte que j'aimais partager, mais là, j'aimais encore plus quand j'avais une salle, 15 personnes, je voyais les transformations, les visages qui s'illuminaient. Et puis, je me suis dit, wow, mais pourquoi je ne connais pas ça? Un peu les réactions que vous avez eues quand je vous parle là, depuis tout à l'heure, même si les gens ne voient pas nos visages. Et c'est comme ça que je me suis mis à partager. Après, j'ai créé ma propre association. J'ai créé ma propre association pour partager. J'ai fait ça quasiment un an en associatif. D'ailleurs, moi, je continuais mon salariat, je faisais ça les week-ends. De temps en temps, je faisais une formation animée à des prix vraiment plus que donnés pour permettre à des gens d'apprendre ce savoir-là. Et c'est en faisant ça, je n'avais pas encore ce projet d'entreprendre. Je n'avais pas encore ce projet de me dire, je le fais, j'ai envie d'en faire mon métier. Et c'est en le faisant, c'est un peu la phrase qu'ils disent en forgeant qu'on devient forgeron ou que c'est l'appétit vient en mangeant. Ben, c'est en force de partager que je me suis dit, ah ouais, mais. Je vois que ça marche, je vois que les gens, il y a de l'engouement, je vois que les gens, ils aiment. Et à un moment, je me suis dit, mais Mohamed, si tu veux vraiment impacter le maximum de personnes, à un moment, il va falloir faire un choix entre ton salariat ou qui te prend beaucoup de temps. Et d'un moment, tu peux plus, ta vie de famille, deux enfants, comment tu fais pour plus. Et je faisais de la compétition. Et là, à ce moment-là, j'avoue que le premier confinement m'a beaucoup aidé. Au sens où là, bah là tu es au travail à la maison, 100% à la maison, tu ne vas plus au bureau, tu as un peu plus de temps pour toi, tu réfléchis. Et c'est à ce moment-là que ça a commencé à mûrir de plus en plus. J'ai fait de la compétition, j'ai gagné. J'avoue, le titre m'a aussi pas mal aidé dans ma réflexion. Et là, je me suis dit, allez, vas-y, Mohamed, lance-toi, tu n'as rien à perdre. Et c'est comme ça que là, je suis passé du mode associatif à j'ai créé ma société, où là, je me faisais rémunérer pour le travail que je faisais. Et j'en ai profité pour faire des formations en ligne également. Parce qu'aujourd'hui, on ne touche pas assez de. Avec moi, je suis à Montpellier, donc je touchais principalement des gens sur Montpellier et Paris, parce que je faisais un peu les deux. Mais pour toucher du monde un peu partout et vraiment impacter des gens en fonction du rythme des gens, j'ai commencé à faire du Zoom, et après, je me suis dit il fallait faire du en ligne. Et donc, j'ai filmé ma formation et je l'ai mis en ligne pour la partager à un maximum de personnes.
Surtout qu'au final, il n'y a pas forcément besoin d'être en présentiel pour apprendre ce qu'il y a à apprendre.
Alors, oui. Alors, c'est un peu bizarre parce que si je te dis non, je tire une balle à ma formation en ligne. Est-ce que j'ai en train de dire si, si, il faut être en physique?
Dis-nous les avantages d'être en ligne et les avantages d'être en présentiel.
Alors, c'est vraiment pour moi, je distingue vraiment les deux. En plus, c'est pour ça que les prix ne sont pas les mêmes. Et l'accompagnement, en vrai, c'est aussi un autre produit. C'est encore autre chose. C'est que tu as les personnes qui sont autonomes et qui ont envie d'évoluer à leur rythme. Qui se disent, bah, moi, j'ai envie d'avancer comme j'ai envie. Le soir, j'ai envie de regarder la formation. J'ai envie de la revoir aussi 5, 6, 7 fois. Moi, je sais que j'ai des formations que j'ai vues. Quand tu achètes une formation, c'est pas fait pour l'avoir une seule fois. Elle a accès à vie. Donc, c'est fait pour l'avoir plusieurs fois. Donc, tu la vois une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Donc, il y a ce type de personnes-là qui sont dans cette dynamique-là. Donc, ça, c'est les avantages. C'est que tu as accès à vie. Tu la regardes quand tu as envie. Tu n'as pas de contraintes. Tu regardes une vidéo. La semaine prochaine, tu en peux regarder une deuxième. L'inconvénient, c'est que tu es un peu tout seul. Après, moi, j'ai mis des garde-fous au sens où j'ai un groupe Facebook avec tous les membres de l'équipe, tous les membres, tous les illimités. Je propose même un coaching de groupe. Une fois par mois, pendant 3 mois, ils ont un coaching avec tous les élèves pour qu'ils puissent vraiment poser leurs questions à une personne qui l'écoute, même si c'est une formation en ligne. C'est un semi, tu vois. J'ai quand même essayé de mettre quelque chose pour qu'il y a toujours une relation. Le physique, l'avantage, c'est l'énergie.
Oui,
C'est-à-dire
c'est
que le
vrai.
physique, tu arrives, tu as un groupe, c'est toute une journée, tu pratiques. Quand tu as une question, tu peux vraiment la poser aux gens. Tu n'as pas à attendre à envoyer sur Facebook. Tu peux me poser directement la question. Tu es avec moi, tu as l'énergie. Donc, tu sors, tu es à fond. Et moi, ce que j'ai fait à chaque fois pour chaque une de mes formations, c'est que je mets un programme d'entraînement à la fin. Et ça, c'est
Oh.
essentiel. Ça veut dire que pour moi, Le vrai, moi, je me suis énormément formé et à chaque fois que je me formais, que je rentrais chez moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Par où je commence? Pourtant, j'étais quelqu'un de rigoureux et je savais que j'aimais ce que je faisais. Et donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, les 80% des personnes, même 90% des gens, à une fois qu'ils ont fini leur formation, ils rentrent et ils reprennent leur vie comme d'habitude. Et donc, moi, j'ai mis en place à la fin de la formation un programme d'entraînement où tous les jours, les gens, ils reçoivent un mail et ils ont des choses à faire. Plus ils ont un programme exact et je leur dis, bah, mettez vos résultats sur le groupe. Et donc, ça engage des personnes et ça pousse des personnes à mettre en application ce qu'ils ont appris. Donc, ça, c'est l'avantage de la formation ligne et l'avantage de l'accompagnement. Là, tu es suivi pendant 2 mois, tu as quelqu'un qui est là derrière toi pendant 2 mois. Voilà, on a un groupe WhatsApp où on communique tous les jours. Voilà, tu as plein. C'est des choses différentes. Ça demande du temps, différentes manières de. C'est un autre investissement du formateur. Donc, c'est un autre coût aussi. Pour les entrepreneurs, forcément, quand vous faites du en ligne, vous vendez que du savoir. Quand vous faites du présentiel, vous vendez du savoir et du temps. Parce que vous vendez votre temps contre de l'argent et vous vendez votre savoir également. C'est pour ça que c'est un peu plus cher.
Effectivement.
Et moi, j'avais aussi une autre question. Je sais que ta femme est également dans l'entrepreneuriat. Enfin, comment ça se passe en fait dans votre couple? Est-ce que c'est elle qui t'a amené à l'entrepreneuriat ou est-ce que c'est toi qui l'as amené à l'entrepreneuriat?
Eh bien, c'est vrai que la particularité, c'est que elle a trouvé ma vocation et moi j'ai trouvé la sienne.
Oh non, c'est magnifique.
Ah, c'est beau.
Parce que, comme je vous ai dit, c'est elle qui m'a inscrit à cet atelier de force, entre guillemets. Elle m'a dit, si, tu iras. Et je m'en rappelle à chaque fois, je dis, ouais, bien sûr, bien sûr. Et un jour, elle m'a dit, bah, c'est bon, je t'ai inscrit, maintenant tu vas y aller. Et donc, j'y suis allé et aujourd'hui, eh ben, ça a fait mon métier. Et à chaque fois que voilà, je lui demande, bah, c'est ma confidente. Tu lui dis, est-ce que je fais ça? Qu'est-ce que je fais? Et donc, elle est toujours là. C'est la personne qui a toujours cette oreille pour me conseiller et m'aider à sortir de ma zone. Tu sais, quand tu doutes, et elle dit, non, mais vas-y, vas-y, t'inquiète, tu là, on y va. Donc, ça, c'était. Et inversement, elle a été, à la base, quand elle était sur Paris, elle était contrôleuse de gestion. Et en arrivant sur Montpellier, elle a toujours voulu aller aussi faire de l'entrepreneuriat. En arrivant sur Montpellier, elle s'est dit, bah, là, c'est le moment de changer. Bah, je pars de Paris et j'arrive dans une nouvelle ville. Je vais en profiter pour changer. Et elle ne savait pas quoi faire. Elle savait qu'elle voulait faire quelque chose d'artistique avec ses mains. Mais elle ne savait pas quoi faire. Et un jour, comme ça, je lui parce qu'elle avait toujours son appareil photo, elle aimait bien prendre des photos. Je lui dis, mais pourquoi tu ferais pas photographe? Elle dit, non, mais syndrome de l'imposteur à 1000%. Non, mais pas moi. Pourquoi moi, je peux pas? En plus, elle est un peu réservée. Donc, comment je vais animer ça dans les baptêmes, dans les mariages? Parce que nous, on a toujours l'impression que la photographie, c'est uniquement les mariages, les événements ou les naissances. Alors, c'est complètement faux. Donc, comme tout le monde, bah, elle a commencé à se former, elle a commencé à vouloir faire un peu elle déjà voulait pas faire les mariages, elle voulait faire que les enfants parce que par rapport à tout ça. Et au fur et à mesure qu'elle se formait, elle s'est rendue compte que en vrai c'est pas ça qu'elle aimait, parce qu'elle a toujours aimé la pâtisserie, toujours aimé
Oh
faire
là
tout ce
là,
qui
mais
était.
food.
Et donc elle a allié le fait de la partie culinaire, donc elle aimait faire des bons plats, la pâtisserie, avec sa passion là aussi de la photo. Et donc elle s'est orientée sur la photo culinaire. Et donc aujourd'hui elle fait que de la photo culinaire. Et voilà, tout simplement. Donc, elle
Oh
a son
mais
studio à la maison. Et
c'est trop
c'est
bien.
toute une organisation parce qu'effectivement, 2 entrepreneurs à la maison, c'est qu'on travaille ensemble. Elle est dans son bureau. Du moment, moi, je suis dans mon bureau, elle est dans le salon. Parce que j'ai un peu pris le bureau. Parce que je vais plus. Mais voilà, elle est dans le salon, on travaille. Elle a son coin à photo.
Ah mais comme quoi, en fait, c'est hyper important de ne pas s'auto-censurer. Et je crois que c'est Samantha qui le disait dans l'épisode précédent, de ne pas se mettre de barrières comme ça, de le budget, est-ce que je vais être capable ou quoi. Au final, elle s'est quand même lancée. Elle a découvert qu'il y avait des niches qu'elle ne connaissait pas. Et finalement, elle a trouvé un truc qui l'a fait kiffer. Et voilà. Et c'est vrai qu'on peut souvent se dire, oui, mais sur le marché, il y a plein de photographes, il y a plein de naturopathes, il y a plein de tout. Bah oui, il y a plein de tout, mais il y a une place pour tout le monde, en tout cas, si on a envie de s'investir dans la démarche entrepreneuriale et vraiment bah, chercher quoi. Mais c'est sûr, si on reste dans sa grotte, c'est compliqué.
Ouais. Alors Aurélie, tu as entièrement raison, il y a plein de tout, mais il n'y a qu'une seule Aurélie, il n'y a qu'une seule Élise, il n'y a qu'un seul Mohamed. Et quand on se lance dans l'infoprenariat ou l'entrepreneuriat ou en fonction des thématiques, les gens, avant d'acheter le produit, ils achètent la personne. Et donc, c'est à toi d'incarner ton produit et à toi d'incarner la personne que tu es et ce que tu vends. Et aujourd'hui, on a tous notre particularité. Et moi, le premier, je me disais, mais oui. Quand j'entendais ces types de phrases, je me dis oui, mais moi j'ai quoi de particulier?
Ouais.
Pourquoi ils achèteraient Mohamed bouclé? Et ensuite, on apprend que avec le temps, que y a, t'auras toujours des gens qui vont plus aimer telle ou telle personne.
Oui.
Comme la restauration. Il y avait McDonald's qui était là depuis des années et des années. Est-ce que Burger King s'est dit, ben non, je ne vais pas me lancer? Ou Quick qui se sont dit, je ne vais pas me lancer? Ben non. Aujourd'hui, parce qu'il y aura toujours des personnes qui vont plus aimer un truc ou l'autre, ou qui, des fois, vont manger des deux. Parce que aujourd'hui, tu as envie de manger McDo, demain, tu as envie de manger Burger King, même si ce n'est pas forcément la nourriture que je plébiscite, c'est un exemple, ce n'est pas forcément la bonne nourriture. Mais bon, ça,
Non,
voilà.
mais c'est des bons exemples puisque
Voilà.
les grandes marques réfléchissent vraiment à quelle personnalité ils vont incarner dans leur communication. Et c'est pas étonnant que les gens qui achètent chez Adidas, ils n'achètent pas chez Nike. Bon, après, il y aura toujours des gens qui achètent un peu partout. Et puis, c'est pas pour rien aussi si finalement on préfère plus une personnalité qu'une autre, parce qu'au final, il y a 12 à 16 personnalités. C'est normal que on s'attire pas tous entre nous. Donc.
Exactement. Et exactement. Sinon, demain, aujourd'hui, il n'y aurait jamais de nouvelles personnes sur le marché. C'est-à-dire qu'il y aurait toujours, il y aurait quatre formateurs et stop sur le marché. Parce que non, alors que des personnes qui font du développement personnel, il y en a des centaines et des centaines, des coachs, il y en a des centaines et des centaines, et tous vivent. Il y en a certains qui seront connus et qui seront. Parce que aussi, c'est fou, c'est l'aspect réseaux sociaux aussi est très nocif, au sens où on voit les personnes qui ont réussi, on voit les personnes qui sont hauts, qui ont 20 000 followers, 30 000, voilà, ils ont tous ces trucs-là, mais il y en a plein qui vivent leur vie et qui vivent bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la course à, c'est pas je dois faire 10 000 euros par mois, tout, tu sais, parce que là, on est là, oui, parce que quand tu es entrepreneur, tu as l'impression que quand tu veux te lancer, il faut que tu fasses les 10 000 euros par mois obligatoirement. Non, bah, si tu fais ta passion et que tu gagnes 2 000, 2 000, 2 500, 3 000 euros par mois et que tu es bien, c'est le plus important, tu vois. C'est ça qui. Et c'est déjà que tu es dans ta passion, tu aimes ce que tu fais, tu es dans ce qu'on appelle ton excellence ou dans ton ikigai, et tu y vas.
C'est super intéressant parce que en parlant de revenus justement, il y a ta femme qui est entrepreneuse, toi tu es entrepreneur, et en fait il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se disent bah je vais pas me lancer parce que il y a un besoin de sécurité, je vais pas me lancer parce que c'est risqué de se lancer, mais vous avez une famille et vous êtes tous les deux entrepreneurs. Comment vous avez fait en fait pour jongler par rapport à ça?
Je sais pas comment te répondre.
Mais ils n'ont pas pensé, en fait, ça se trouve.
Non, c'est comment dire ça? J'avoue, je sais pas. En vrai, on s'est lancé, ça commence à fonctionner. Surtout de mon côté, ça fonctionnait plutôt pas mal. C'est que ma femme, quand elle s'est lancée, au début, j'étais encore salarié, donc ça a beaucoup aidé parce que elle s'est dit, bah moi, j'ai aucun risque, je me lance dans la photo culinaire. En plus, ça lui dégageait du temps pour s'occuper des enfants. Et souvent, il y a beaucoup de mamans qui, arrivées à 30 ans, bah, ont leur premier ou leur deuxième enfant. Et qui, là, ils disent, bah moi, cette vie où j'arrive au bureau à 8 heures, je finis à 20 heures, je ne vois pas mes enfants, ils passent mes enfants chez la nounou, tout ça, ce n'est pas fait pour moi. Donc, avec le stress, donc là, elles se disent, bah, j'aimerais bien faire de l'entrepreneuriat. Après, elle tombe dans un autre leurre qui est, elle travaille encore plus qu'avant. Parce que quand tu te lances, tu as envie de faire plein de trucs. Donc ça, c'est un autre leurre. Alors à la fin, ils n'ont ni leurs enfants, ni ils n'ont rien. C'est un autre truc. Ça sera pour faire un autre objet d'un autre podcast.
Ah oui,
Mais
avec plaisir.
donc là, pour le coup, effectivement, elle avait cette chance de se dire, bah, moi, j'avais la sécurité de l'emploi pendant qu'elle commençait à se lancer. Et après, quand moi j'ai fait, je me suis lancé et que le jour où j'ai décidé de me mettre à plein temps, je pense qu'on n'y a pas pensé. On s'est dit, bah, ça fonctionne, allez, on y va et go. Et voilà. Et après, effectivement, si demain, ça devait arrêter de fonctionner, la seule sécurité que j'ai fait, c'est que j'avais mis un peu d'argent de côté. Et aujourd'hui, je me dis, bah, voilà, t'as cette petite somme qui te permettra de manger des pâtes et du riz, le temps de trouver un autre emploi. Après, moi, je vends le savoir. C'est-à-dire que je vends la capacité de pouvoir d'apprendre et de se transformer. Et donc, moi, effectivement, dans mes croyances, je me dis, demain, je perds. On me dit, demain, ça ne fonctionne plus. Eh ben, ça n'a pas un problème. Moi, je sais que j'ai les outils, je vais à la bibliothèque. Je me forme, je ne sais pas, sur une thématique qui est super intéressante, je reprends mes études, ou je ne sais pas, et après, je retrouverai du travail parce qu'aujourd'hui, les gens, ils font. Tu sais comment fonctionne, comment ton cerveau fonctionne. En vrai, c'est peut-être pour ça que je ne me suis pas posé la question. Peut-être que dans mon fonctionnement était de, ah ben ouais, demain, je vois que les gens ils sont plus intéressés par mes formations et que j'ai envie de reprendre l'entrepreneuriat ou j'ai envie de prendre l'entrepreneuriat sur une autre thématique parce que peut-être demain, j'avais arrêté la formation sur la technique d'apprentissage, je vais me lancer dans le coaching, dans le business ou je ne sais pas. Ben, je me dis, ben voilà, j'irai, je passerai une semaine, un mois, deux mois à me former à fond et là, j'irai me lancer dans ce nouveau projet. Parce que je sais que je pourrais être capable d'apprendre tout ça.
En fait, tu es un véritable alchimiste. Tu transformes tout.
Non, je ne suis pas. Non, là, tu es parti trop loin. Mais je ne transforme pas le plomb en or. Pas encore. Mais effectivement, mais oui, effectivement, ce qui est fort, c'est que quand tu as. Et c'est ce que j'ai remarqué sur mes élèves. C'est que quand tu apprends toutes ces techniques, souvent mes élèves, quand je fais l'accompagnement, donc moi je l'ai dit que je vous accompagne sur les techniques d'apprentissage, et souvent à la fin, le constat qu'ils me disent, c'est tu nous dis que tu nous accompagnes sur les techniques d'apprentissage, mais tu nous accompagnes sur plus que ça. Et quand je leur dis sur quoi, ils me disent tu nous fais prendre conscience qu'en vrai, qu'on est vraiment illimité et que la seule limite qu'on se donne, c'est celle qu'on s'est donnée. La seule limite qu'on a, c'est celle qu'on s'est donnée. Et c'est ça qui est réel. C'est-à-dire qu'effectivement, si on part directement avec la croyance de « oui, mais je ne vais rien avoir à manger, mais si, mais ça, tu vois, toutes ces croyances limitantes, je ne vais pas pouvoir payer mes factures », eh bien oui, forcément, tu vas rentrer dans cette sphère où tu vas avoir peur, tu vas avoir peur de prendre des risques, tu vas avoir peur de faire des choses. Forcément, à un moment, tu vas rentrer dans ça. Je ne sais pas si vous connaissiez l'expression « brûler ses vaisseaux ».
Ah, pas du tout.
Non. Brûler ses vaisseaux, c'est quoi ? C'est une expression qui veut dire, le nom va me revenir, mais c'est de la personne qui avait dit ça, c'est en Andalousie, 6 siècles avant Jésus-Christ. Je ne me rappelle plus le nom de la personne, exactement, ça va me revenir, qui est venu conquérir l'Andalousie. Et quand il est arrivé en Espagne, il a pris ses vaisseaux, il a brûlé tous ses vaisseaux, il a dit à son armée, maintenant, c'est soit devant vous, soit derrière, c'est la mer. Donc, c'est soit derrière, tu te retournes, tu as la mer, soit devant toi, tu as l'armée, tu as l'autre armée. Donc, maintenant, tu y vas.
Ouais, pas de retour en arrière, en fait. Si, ça me dit quelque chose.
Ouais, il n'y a pas de retour en arrière. Et donc, forcément, tu te dis, soit je meurs, soit j'y vais. Bon, après, je prends ça avec des passettes. Je ne dis pas que demain, j'appelle pas les gens demain à se dire, j'arrête, je démissionne, je suis chez moi et j'y vais. Moi, je suis plus adepte, comme je dis toujours, de la méthode des petits pas. Moi, oui. C'est comme ça que c'est fait. C'est que j'ai commencé à faire de l'associatif. J'ai vu que ça fonctionnait. Et c'est au moment où j'ai vu que ça fonctionnait qu'au niveau associatif, je trouvais qu'il y avait un certain engouement, que j'ai arrêté l'associatif et que j'en ai créé une société. Et je ne me rémunérais pas dans l'associatif. Donc, j'ai laissé ça associatif. Et après, je suis parti en entrepreneuriat. Et j'appelle les gens souvent à faire quoi je ne sais pas si c'était au sujet du podcast, mais on voulait vous lancer quand vous avez une idée. Commencez par du gratuit. Commencez par du gratuit, c'est-à-dire partager ça gratuit. Parce que ne commencez pas directement à vous dire je veux de l'argent. C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire, c'est je veux tout de suite être payé pour ce que je fais. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire les choses gratuitement pour créer ton expérience et t'enlever tes croyances limitantes. Et donc, je ne te dis pas de faire ça pendant un an, mais tu prends une personne ou deux, je ne sais pas, tu veux faire du coaching, tu prends une ou deux personnes, tu les coaches gratuitement. Et toi, ça te crée ton expérience et t'enlèves ta croyance limitante de « j'y arrive pas, je ne peux pas » et tu vois les résultats. Tu as tes premiers témoignages, des personnes qui disent « regarde, à ma idée ». Et donc là, après, tu commences à monétiser ton savoir contre un peu d'argent. Et comme ça aussi, et après, tu vas crescendo. Et on n'est pas, pour moi, c'est pas la course à l'argent. Et donc, peut-être que tu fais 6 mois comme ça et tu as assez d'expérience. Et là, quand tu vois que ça a fonctionné, que ça t'a pris, que tu as commencé à avoir des clients, tout ça. Et là, à ce moment-là, tu te dis, là, je vais arrêter ou pas. Et comme ça, en vrai, tu valides ton projet. Dans les startups.
C'est ça. Ouais. Il faut valider son idée, tester son idée. Après, comme tu disais, pas un an.
Oui. Oui. Non, mais tu le fais parce que tu es dans l'action. C'est-à-dire que c'est dans ton processus. C'est-à-dire que ton processus d'atteinte de ton objectif, on dit, Élise, tu viens et tu dis, moi, j'ai envie de me lancer. J'ai envie d'être coach. Exemple, j'ai envie d'être coach. Et bien, tu sais que tu veux le faire. Et bien, au lieu d'être pendant un an à tourner les pouces et à créer la meilleure offre du monde, à préparer les plus belles slides du monde, à vouloir faire la meilleure présentation, à tout ça, et après te dire, aujourd'hui, je me lance, je démissionne et j'y vais. Et là, tu regardes chez toi, il n'y a personne, tu n'as pas de client, il n'y a personne. Vaut mieux te dire, dans un an, j'ai envie d'arrêter. Et à partir d'aujourd'hui, eh ben, je commence. C'est-à-dire, j'en parle à mes amis, à mon entourage, oui. Je leur propose un coaching gratuit à une ou deux personnes, je coach, je vois le ressenti des personnes, ce qu'elles me disent, ah ben ça, j'aime mieux. Tu commences à faire tes slides, tu le refais à une deuxième personne, tu modifies tes slides. En vrai, ton truc gratuit, là, mais en vrai, c'est pas gratuit. C'est gratuit parce que tu ne reçois pas de l'argent, mais tu reçois plus que l'argent. Tu reçois l'expérience, tu reçois la mise en œuvre. Et comme ça, et après, ça, une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois. Là, après, tu commences à monétiser un peu. Et comme ça, tu es sûr de ne pas avoir de déçus parce que quand tu vends un truc pas très cher, il n'y aura pas forcément… Après, c'est moi, c'est moi. Je sais qu'il y en a qui ne disent pas comme moi, mais tu le vends pas très cher. Et au moins, tu enlèves cette croyance limitante de dire « Ah ben, je suis pas bon », tout ça. Donc là, tu as des avis positifs. Et là, à ce moment-là, tu dis « Bah là, maintenant, j'y vais ».
Maintenant, j'y vais. Et en plus, j'ai eu le temps de me créer tout un agrégat de choses, de supports, de méthodologies qui ont une certaine valeur quand même.
Bien sûr.
Et voilà, en fait, c'est vrai. Moi, j'entends beaucoup de gens qui disent « Ouais, j'ai un projet de formation, j'arrive pas à avancer et tout ça. » Et c'est un bon exemple. Bah, pourquoi tu commences pas par un atelier gratuit ?
Voilà, c'est ça. Voilà. C'est exactement ça. Et en plus, moi, je suis plus adepte de dire quoi, c'est tu prends exemple, tu prends 5 amis à toi, et comme tu veux te lancer dans la lecture rapide, bah, tu prends 5 amis à toi, tu lui dis rendez-vous dans une semaine chez moi, je te fais un atelier de lecture rapide.
Oui.
Même si tu n'as pas prévu tes stats. Moi, quand on m'a proposé de faire la formation, on m'a dit bah, tu veux faire ça, j'ai dit ok, j'avais aucune slide. Hein. On a convenu d'une date, on avait un mois. Et donc, j'ai passé un mois. Là, tu es sûr que dans ton cerveau, j'avais un mois pour préparer le truc. Et là, pendant un mois, j'ai travaillé le soir et le week-end, mais tu as un objectif, tu es à fond.
T'avais pas le choix. Tout le monde t'attendait.
Voilà, j'avais pas le choix. J'étais dans l'action et je me disais, vas-y, j'y vais. Et voilà, j'ai fait ça. Et j'ai fait ça pendant un mois et ça m'a permis de tout préparer. Et après, j'ai fait mon atelier. Et quoi qu'il en soit, je sais que le premier atelier, c'était pas un truc incroyable, mais je l'ai fait. Je suis rentré, j'étais heureux. Les gens étaient contents. Les gens étaient indulgents parce qu'ils savaient que c'était ma première. J'ai commencé l'introduction pour dire c'est ma première, ou j'y vais et c'est cool.
Je vais juste poser une dernière question avant de clôturer, si on peut.
Oui.
Oui, j'ai lu sur ton site que tu aides les gens à organiser leurs projets. Et en fait, je me demandais, quand des entrepreneurs viennent à toi, est-ce que tu aides certains à lever des blocages de procrastination, par exemple?
Moi, quand je fais mon programme d'accompagnement, la première chose qu'on voit déjà, au tout début, on parle des croyances limitantes, donc les croyances du fait que je ne vais pas réussir, parce que le fait de ne pas réussir à apprendre, c'est surtout une croyance limitante dans un premier temps. Et ensuite, on parle d'organisation. Et donc, l'organisation, c'est sur la procrastination. En vrai, l'organisation, souvent, les gens procrastinent parce qu'ils veulent être dans l'excellence. Et il y a souvent l'excellence amène à la procrastination. Et le syndrome de l'imposteur aussi ramène à la procrastination. C'est-à-dire, ouais, je suis pas assez bon, c'est pas moi, pourquoi j'ai réussirai, tu vois, toutes ces croyances-là. Et donc, on va travailler un peu sur ça. Et moi, je vais mettre le passage à l'action, la mise en action. Parce que pour moi, un apprentissage sans action, il est inutile. Donc, j'ai créé connaissance illimitée. Et pour moi, la connaissance illimitée, c'est apprendre, appliquer, partager. Et donc, si tu apprends, tu dois forcément appliquer. C'est pour ça que dans mon programme d'accompagnement, les gens ont des choses à faire entre chaque semaine. On se voit toutes les semaines, mais entre chaque semaine, ils ont un programme d'entraînement pour être dans l'application. Et donc, un entrepreneur, s'il doit se lancer, il doit se mettre des objectifs hebdomadaires. Tous les jours, toutes les semaines, il a son objectif en disant « Cette semaine, voilà l'objectif que j'ai envie d'atteindre. » Et comme ça, la semaine, il a programmé son cerveau à l'atteinte de cet objectif. Et ce qu'on fait souvent, ce que je demande moi à mes élèves sur l'apprentissage, mais ça peut être transposé dans l'entrepreneuriat, c'est que tous les dimanches, tu dois planifier ta semaine, faire tes réussites de la semaine passée et tes objectifs de la semaine à venir. Et comme ça, tous les dimanches, tu as ton moment, tu le mets dans ton agenda, et c'est vraiment bloqué dans ton agenda, comme si tu avais rendez-vous. Bah, tu as rendez-vous avec toi tous les dimanches à 20h et pendant une demi-heure, tu planifies ta semaine. Voilà, j'ai envie de faire ça, c'est ça que j'ai envie de faire. Tu mets tes objectifs et tu fais aussi le bilan. Ah, ça, j'ai réussi, ça, j'ai pas réussi. Tu as ton petit moment d'introspection. Et comme ça, toutes les semaines, tu avances pro crescendo. Ouais. Déjà, tu le fais toutes les semaines. Il y en a qui le font après tous les jours aussi. Et voilà, comme ça, tu es dans l'action. Et le meilleur moyen de réussir, c'est le passage à l'action. C'est les petits pas. C'est-à-dire tous les jours faire un peu. C'est tout ce que j'ai décrit pendant tout le long de ce podcast. Et lorsque j'ai donné l'exemple de l'entrepreneuriat, c'est le fait d'y aller crescendo tous les jours, un peu, tout simplement.
Et puis, de toute façon, il y a toujours la règle des… Alors, je ne sais pas si c'est 2 minutes ou 5 minutes, mais par exemple, se remettre à la lecture. bon, moi, j'ai eu du mal à m'y remettre à un moment donné, mais je lui ai dit, mais je suis en train de passer à côté de plein de choses parce que je ne le fais pas, je ne peux pas m'améliorer. Ce n'est pas comme ça que je vais... Enfin, si je ne le fais pas, je n'aurai pas d'inspiration pour mes contenus, quoi. Et puis, finalement, je suis tombée sur une vidéo qui me parlait de la règle des 2 minutes. Et bah, il suffit, pour se remettre à lire, bah, d'être rigoureux sur chaque jour. Je vais lire, par exemple, une page ou juste 2 minutes. Et en fait, à chaque fois, je me faisais avoir parce que j'utilisais quelques pages de plus. Et maintenant, c'est redevenu une routine. Je n'ai pas envie de démarrer ma journée si je n'ai pas lu 10 minutes. Donc, c'est ça aussi, les petits pas.
C'est l'appétit vient en mangeant. Voilà. Parce qu'effectivement, le plus dur, c'est de commencer. Et une fois que tu as commencé, tu y es. Et donc, en plus, si c'est un livre qui t'intéresse, tu dis, bah, je lis que 2 minutes. Tu te dis dans ta tête, tu programmes ton cerveau en disant, ça fera 2 minutes. Mais comme tu as lu la page et que c'est intéressant, bah, tu as envie d'arriver à la fin de la page. Après, tu dis, bah, attends, je finis ce chapitre ou je finis ce raisonnement. Et à la fin, tu dis, au moins, j'ai lu mes 10 minutes. Et c'est exactement ça.
Merci beaucoup. Alors là, en fait, on demande à chacun de nos invités à la fin de l'épisode ce qu'il va y avoir après pour toi. C'est quoi la prochaine étape ?
Ma prochaine étape, je continue donc ce que j'ai commencé à mettre en place, donc mes formations en ligne, mon accompagnement. Je vais reprendre un peu le physique, donc des formations physiques. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me manque. Là, je vais reprendre avec la situation sanitaire, je vais reprendre du physique. Et mon objectif, c'est que l'année 2021, je sois le plus structuré possible. Donc, c'était mon objectif en me lançant quand j'ai créé mon entreprise, c'est que 2021, ce soit l'année de la structuration, recrutement d'un bras droit, recrutement de personnes pour vraiment structurer. Et voilà, tout simplement. Donc, je suis à fond dans ça et dans le partage de ces connaissances pour faire en sorte qu'il y ait un maximum de gens qui découvrent la connaissance illimitée et qu'il y ait un maximum d'illimité sur Terre pour permettre que ce monde soit meilleur.
Bravo, super beau mot de la fin, on adore.
Merci, merci beaucoup pour l'accueil, merci Aurélie, merci Élise.
Bah avec grand plaisir, donc notez bien dans vos têtes, Mohamed Boclet. Et franchement, au plaisir de te réinviter, et j'invite vraiment tout le monde à regarder son site, se renseigner sur le mind mapping, la lecture rapide, voilà, pour vous aider aussi à passer à l'action, hein, parce que c'est vrai, quand on entreprend, il faut apprendre beaucoup de choses. Et puis, on vous attend toujours sur notre compte Instagram. Bon, pour l'action de ce podcast, moi, je propose de simplement partager quelque chose que vous aimeriez apprendre, voilà, pour faire avancer vos rêves. Et on mettra peut-être un post pour ça. Et puis, on se dit à dans un mois.
Ciao. À dans un mois. Ciao.